Vous écoutez
RMC.
Sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à vous tous. Le journal, c'est Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les témoignages ce matin sur RMC de deux plaignantes de Jean-Luc Lahaye. Elles prennent la parole pour la première fois sur RMC et s'indignent du retour sur scène du chanteur accusé de viol. Vous les entendrez. Le chauffage à 19 dans les maisons, 17 cet hiver dans les chambres. Ce sont les nouvelles recommandations du gouvernement qui dévoilera son plan sobriété dans la journée. Et puis le nul, pas si nul que ça, de Paris. Un partout à Benfica hier soir avec un bijou de Messi en Ligue des Champions.
Et pour la première fois ce matin sur RMC, deux plaignantes de Jean-Luc Lahaye prennent la parole.
Le chanteur, oui, soupçonné de viol sur mineur incarcéré il y a un an avant d'être remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire au printemps. Il vient d'annoncer son retour sur scène avec un spectacle prévu en décembre et ce retour choque ces deux victimes présumées, ces deux plaignantes qui se sont confiées à Guillaume Bier, le chef du service police-justice à RMC. Écoutez-les, c'est un témoignage exclusif.
Roxane n'avait que 16 ans lors des premiers viols qu'elle dénonce. Ultra fan de Jean-Luc Lahaye à l'époque, elle assure qu'elle était alors totalement sous son emprise. Aujourd'hui, elle se dit outrée d'apprendre que le chanteur mis en examen envisage de remonter sur scène.
Pour moi, ça s'est passé dans les loges en grande partie, dans les coulisses des concerts. Donc forcément, je suis heurtée que la programmation de ces nouvelles dates soit autant banalisée. C'est justement son métier d'artiste et sa notoriété qui lui permettent d'agir avec plus de facilité. Il a un réel pouvoir de par sa popularité et ça, c'est le danger. Et j'ai peur pour d'autres jeunes filles, tout simplement.
Emeline, elle aussi, accuse Jean-Luc Lahaye de viol. Elle avait alors 16 ans. Elle ne comprend pas pourquoi l'artiste n'a aucune interdiction de fréquenter des mineurs.
Pour moi, c'est terriblement choquant. Tout en sachant son passé, qu'il a déjà été condamné plusieurs fois. Une fois pour atteinte sexuelle sur mineur, une fois pour corruption de mineur. Et je comprends pas que la justice ne lui ait pas interdit d'entrer en contact avec des mineurs. Il a toujours le droit aujourd'hui et vraiment, je trouve ça extrêmement choquant.
Les deux jeunes femmes espèrent que la justice entendra leur appel en attendant un futur procès pour se reconstruire.
Il est 6h32 et chaque geste compte. Ça, c'est un message que vous allez entendre sans arrêt pendant tout l'hiver jusqu'en février, puisque le gouvernement va dévoiler dans l'après-midi son plan sobriété pour réduire, tenter en tout cas de 10% la consommation d'énergie. On a déjà les mesures concrètes ce matin. L'eau chaude, par exemple, coupée dans les administrations, l'extinction des enceintes lumineuses la nuit. Le gouvernement demande aussi aux Français, à nous, de mettre le chauffage à 19 dans les maisons, 17 même dans les chambres, chose pourtant impossible, très compliquée dans les immeubles qui tournent au chauffage collectif, où on verrait bien d'un bon oeil le passage à l'individuel. Écoutez avec Martin Bourdin dans un immeuble parisien pour RMC.
Dans l'appartement parisien de Fanny et Martin, au 8e étage d'un immeuble, pas de chauffage.
Voilà, il est à zéro notre chauffage hein, et il fait hyper chaud.
Dans le salon, on dépasse facilement les 23 degrés grâce au chauffage collectif et à ces tuyaux de chaufferie qui traversent la pièce.
Juste ça, ça suffit à chauffer la pièce qui est relativement grande.
On a la chance aussi d'être encadré par deux personnes plus âgées qui chauffent plus fortement.
Alors l'individualisation des frais de chauffage.
Nous, ça nous bénéficierait, c'est sûr.
D'après l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, ça permettrait de réduire la consommation d'énergie de 15%, mais pas sûr que ça fasse une vraie différence sur les factures, souffle Eddy Jacquemart, le président de la Confédération nationale du logement.
L'investissement que ça représente, de mettre des décompteurs dans chaque appartement, il faudra les frais de relève. Quand on va mettre tout ça bout à bout, le gap, il est peut-être pas si énorme que ça.
Marianne Louis, la directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat, pointe un autre problème.
Il y a quand même cette question d'équité entre les locataires.
Ceux qui risquent de payer plus sont ceux qui restent chez eux toute la journée.
Et c'est qui est là toute la journée? Les gens malades, âgés et les assistantes maternelles. Nous, on a la capacité, à travers les chaufferies collectives, à réguler la température pour tout l'immeuble.
Pour elle, comme pour d'autres spécialistes du logement, c'est surtout un vrai plan efficace de rénovation thermique des bâtiments qui permettrait de faire de vraies économies d'énergie.
La grève continue dans les raffineries, mouvement sur les salaires. Ça fait deux semaines maintenant avec des conséquences de plus en plus visibles, même si le gouvernement assure qu'il n'y a pas de pénurie. 12% des stations-service à sec ou presque, selon le gouvernement. 30% même dans les Hauts-de-France où les stocks stratégiques de l'État, ça y est, sont débloqués pour faire rouler les transports scolaires. C'est ce que confirme ce matin sur RMC le vice-président de cette région. Aujourd'hui, c'est le personnel des crèches qui est en grève partout en France. Mouvement contre un arrêté autorisant le recrutement de personnel non diplômé pour garder les enfants. Il manque 10 000 postes, une crèche sur deux mobilisée, comme au Havre par exemple avec Mao Baker-Granier pour RMC.
Des puéricultrices, des membres de direction et même le président. Ce matin, la cinquantaine de salariés de la crèche arc-en-ciel du Havre prennent le car pour aller manifester.
Jamais on s'est mobilisés tous ensemble pour monter à Paris. Enfin, c'est inédit, quoi.
Dans les trois crèches que supervise Delphine Senante, directrice de l'association, les effectifs manquent.
C'est tendu. On fait des entretiens d'embauche tous les jours sur les trois structures.
Hors de question pour autant d'embaucher du personnel non qualifié. Conséquence, ce sont parfois les directrices elles-mêmes qui comblent ces manques.
C'est-à-dire que si on est obligé de diminuer les créneaux horaires de nos crèches pour être en sécurité avec du personnel, ça serait une solution à évoquer.
Une mauvaise solution dont cette directrice aimerait bien se passer. La bonne solution, c'est la formation, explique Émilie Philippe, membre du collectif Pas de bébé à la consigne, à l'origine de cette manifestation.
Travailler auprès des tout-petits, ça ne s'improvise pas. On ne s'occupe pas des enfants des autres comme on peut s'occuper de ses propres enfants. Pour nous, ce qui devrait plutôt être mis en avant, c'est justement le fait de favoriser les formations longues et les plus approfondies auprès des enfants.
Cette éducatrice s'inquiète des dangers encourus par les enfants si la situation continue de se dégrader.
Voilà, et mouvement encore plus large à Marseille avec la fermeture de la moitié des cantines aujourd'hui, nous dit Force Ouvrière. Les habitants du nord-est de Paris sur la réserve ce matin au lendemain de l'évacuation du camp de consommateurs de crack de Forceval, camp dans le 19e arrondissement de la capitale, 800 policiers sur place. C'est ce que nous dit le ministère de l'Intérieur pour éviter la formation d'un nouveau campement. Mais, ça ne changera rien, nous dit cette riveraine.
Ça semble bien être uniquement une opération de police. On va disséminer tout le monde n'importe où. Ces personnes risquent de retourner vers leurs lieux historiques. Sans soins, sans accompagnement social. Comment la capitale de France, le pays dit des droits de l'homme, en un an de temps, n'a pas pu trouver des solutions pour prendre en charge 6 à 700 personnes? Enfin, on rigole!
Le superbe but de Lionel Messi en une touche de balle n'aura pas suffi. Paris accroché un partout hier soir par le Benfica au Portugal pour le troisième match de Ligue des Champions. Match nul, frustrant, nous dit quand même Marco Verratti au micro de RMC Sport.
Un peu de frustration, on est Paris Saint-Germain, on joue toujours pour gagner. On savait que c'était un match difficile contre une très bonne équipe. Quand on ne les gagne pas, il ne faut pas les perdre. C'est un match de confrontation directe. Je pense qu'on a donné tout, on a fait des sacrifices. Pour ça, je suis content de la prestation. Après, bien sûr, on essaie toujours de gagner, avoir un résultat meilleur.
Voilà, et match retour contre le Benfica, ce sera mardi prochain au Parc des Princes. Pas d'incidence pour les Parisiens avec ce nul qui reste premier de leur groupe. Mais la Juventus se relance malgré tout en gagnant 3-1 contre Haïfa avec un doublé d'Adrien Rabiot. Place à l'Europa League et à la Conference League ce soir pour Rennes, Nantes, Monaco et Nice sur RMC à la radio et les chaînes RMC Sport à la télé. Rennes tient d'ailleurs contre le Dynamo Kiev et à cette occasion 200 réfugiés ukrainiens ont été invités en tribune pour assister à ce match.
Et puis le Quintet, Quentin, c'est à Saint-Cloud.
En début d'après-midi sur RMC Découverte à 13h50, le 6 hélas, les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Le 6 en favori Chic to Chic et hélas en outsider Caramelito. On l'aime bien celui-là avec Charles.
Oui, il est sympathique, je trouve, Caramelito, c'est vrai.
Ça donne faim.
Oui, exactement, ça donne envie d'un petit moment. 6h37, c'était le journal de Quentin Vinet.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
C'est votre avis. Dans un instant, je vous attends plus que jamais au 32-16 parce qu'il y a entre 10 et 30% des stations essence qui sont en situation de pénurie. Est-ce qu'il faudrait rationner l'essence à la pompe? Venez donc débattre, nous raconter, témoigner. Vous êtes sans doute sur la route. Le standard vous est ouvert.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, c'est l'heure de l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Aujourd'hui, direction Marseille. Avec vous, Caroline Philippe, vous nous emmenez ce matin dans les coulisses d'une vente aux enchères un peu particulière.
Oui, car tous les biens vendus aux enchères ont un point commun, ou plutôt deux. Ce ne sont que des objets de luxe qui appartenaient à des escrocs. Ils ont été saisis par la justice aux trafiquants de drogue, aux proxénètes, aux fraudeurs de la région. C'était les premières enchères de biens criminels organisées à Marseille. Et en 3 ans de butin, c'est la caverne d'Ali Baba dans la grande salle du Palais du Pharo. Plusieurs voitures de luxe, des Porsche, des Ferrari et même un cabriolet Mercedes. Il y avait aussi des sacs Louis Vuitton et des bijoux, bagues, colliers et montres, évidemment. Il y avait donc de la marque, Cartier et Rolex, pour ne pas les citer. C'était d'ailleurs le premier lot, une Rolex très rare, mise à prix 30 000 euros et adjugée 54 000. L'acheteur, un passionné de montres, dit-il, a dû passer un petit coup de fil à son banquier pour contracter un prêt avant de se l'offrir. Autre lot insolite, un bateau saisi à cause d'une sombre histoire de marché public truqué et de détournement de fonds en Corse. Bref, tout ce luxe a attiré du monde, 200 personnes en salle, 1000 en ligne, et en quelques heures, les 209 lots ont été vendus, 815 000 euros ont été récoltés pour renflouer les caisses de l'État, mais aussi donner plus de moyens aux enquêteurs et indemniser prioritairement les victimes.
Le récit de Caroline Philippe pour RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h41 et c'est à vous.
C'est votre avis.
C'est à vous de témoigner ce matin au 32-16, parce que bon courage si vous cherchez du carburant ce matin avant d'aller au travail. Un peu plus d'une station sur 10 est privée de carburant, en totalité ou en partie, et en particulier dans les Hauts-de-France, parce que là c'est encore pire, une station sur 3 est touchée.
C'est la galère, toutes les stations essence sont fermées, elles sont blindées à chaque fois. On va même dans des stations, parfois, il n'y a même pas l'essence qu'on cherche.
C'est la troisième, ouais. C'est la troisième où il y a encore quelque chose, donc j'espère que j'en aurai assez. Je suis à 2-3 gouttes qui me restent.
La réduction, on s'en fout, on veut d'essence. Hein. Clairement, là, je fais le plein. Là, je fais le plein, et puis, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, quoi.
Alors pourtant, le gouvernement expliquait hier, pas de pénurie. Mais enfin quand même, la situation elle est telle que dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, eh bien l'interdiction de remplir un jerrycan a été décidée. Et puis des stocks stratégiques vont être libérés. On a Fablo qui nous appelle justement du coin de Lille. Bonjour. Allô, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Oui, alors est-ce que vous êtes où? Racontez-nous.
Ben, moi, je suis sur la région lilloise. Ça fait exactement à peu près une semaine qu'on trouve plus de carburant chez Total. Et depuis lundi, nulle part ailleurs. Nous sommes obligés d'aller en Belgique. Mais ce que je comprends pas, c'est que Total, sur l'autoroute,
ouais,
il y a du carburant. Et Total, à 200 mètres de là, c'est-à-dire à Seclin, il n'y a pas de carburant.
Alors attendez, dites-nous, parce que justement, ça peut intéresser aussi d'autres qui écoutent. Laquelle a encore du carburant et laquelle n'en a plus?
Ben, Total, Fallon-Pain, sur l'autoroute A1. Mais c'est très dangereux parce que ça déborde sur l'autoroute, quoi. Ils sont...
Ah, ça déborde carrément au-delà de la bretelle sortie de l'autoroute.
Depuis 3 jours, hein, ils diffusent des messages de pas s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence.
Oui.
Et Total, qui est à 200 mètres de là, mais en ville.
Oui.
C'est vide.
C'est vide. D'accord.
Depuis 8 jours, mais vraiment 8 jours, hein. Pas...
Et vous avez fait comment, vous, Fabio? Vous êtes parti d'où, là, ce matin?
Le pire, c'est qu'on a eu une carte Total il y a une semaine, on n'a pas pu l'utiliser. Du coup, on va en Belgique. On est obligé d'aller en Belgique où le carburant est vachement plus cher.
Et donc, vous avez fait carrément une boucle par la Belgique ou il se trouve que vous passiez en Belgique, Fabio?
Non, on y passe, mais normalement, on a hors de pu mettre le carburant en Belgique parce qu'il est moins cher en France, quoi.
Et les prix en Belgique?
C'est à peu près 1,90, 1,88 par là.
D'accord. Et vous en parlez, j'imagine, entre vous, Fabio. Comment vous vous sentez un peu inquiet?
Ben, faut pas que ça dure, quoi. Oui, pour les. Oui, faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que on comprend pas. Surtout qu'en Belgique, il y a du carburant. C'est juste à côté. Ici, il n'y a rien.
Pourquoi il y en aurait là-bas et pas ici, Fabio? Il y a Emmanuel Le Chip qui va intervenir aussi.
Non, c'est juste pour préciser qu'en fait, c'est la distribution d'essence et l'approvisionnement des stations, c'est de la mécanique de très haute précision, en fait. Hein. Il y a des camions citernes. D'abord, il y en a en quantité limitée. On en manque aujourd'hui en France. Après, il y a les contraintes de sécurité. Après, il y a la structure des stations-service. C'est-à-dire qu'il y a des stations-service qui ont des petites cuves. Parce que et dès que vous avez un report de demande un peu exceptionnelle sur une station, et ben cette station, elle peut pas être approvisionnée plus fréquemment. Il suffit pas d'appeler le camion comme ça pour qu'il vienne. Et donc ça crée des perturbations en cascade comme ça. Et donc on peut nous dire oui, il y a plein de pétrole dans les raffineries, dans les stocks stratégiques, etc. Mais n'empêche que le problème, c'est de l'acheminer dans les stations.
Fabio, restez avec nous. Il y a aussi Romaric qui nous a appelé. Vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence. Vous êtes où exactement, Romaric?
C'est ça. J'habite Château-Arnoux, pas très loin de Sisteron.
D'accord. Et vous faites beaucoup de routes pour aller enseigner?
C'est ça. J'enseigne à Marseille. Donc, j'ai 130 km le matin, 130 km le soir pour aller enseigner.
Ah, et vous faites ça combien de jours par semaine?
5 jours par semaine.
Ah oui, donc c'est quand même... pour vous, c'est un énorme budget en plus, hein?
C'est un gros budget, le carburant. Donc, j'étais très content quand même de la ristourne totale.
Ouais.
Et là, depuis mercredi, sur mon trajet, les stations Total sont toutes vides.
D'accord.
Et les autres stations commencent à être en pénurie. Ce matin, je ne suis pas encore arrivé à Marseille, mais ce matin, sur mon trajet, j'ai croisé 6 stations essence, 400 carburants.
400 carburants quand même. Et là, qui sont pas c'est pas des stations de l'enseigne Total?
Non, c'est pas que des stations de l'enseigne Total.
D'accord. Et les prix ont augmenté ou?
Et les prix des deux stations qui sont restées ouvertes ont pris 11 centimes depuis mercredi.
Et vous avez fait quoi, Romaric? Est-ce que vous avez fait le plein dès que vous avez vu une station qui avait encore de l'essence?
Non, j'essaye de faire le plein le moins souvent possible. J'attends d'être bas, mais au vu des pénuries maintenant, le mercredi quand j'ai remis de l'essence, Je regardais les prix, j'arrive à la station, station vide, je vais à la station d'à côté, station vide. Donc maintenant, dès qu'il me manque un quart de carburant, je retourne faire le plein.
Oui, c'est ça.
Pour m'assurer de pouvoir rouler et aller au travail correctement. Si...
Mais c'est Charles, aussi ce qui alimente quelque part la
pénurie. Exactement, c'est pour ça que je vous posais la question.
Sans vous blâmer, hein, Romaric, c'est que tout le monde a le même réflexe. On arrive à la moitié de la jauge, on remplit, c'est des pleins qu'on n'aurait pas fait habituellement. C'est le phénomène des jerrycans, hein, on les interdit carrément dans le Nord. Il y a beaucoup de gens qui
pénurie, font. C'est surtout qu'il y a des personnes avec 5, 6, 7 jerrycans dans le coffre qui remplissent le...
Vous l'avez vu ça? Vous l'avez vu ça, Romaric?
Je l'ai vu, des personnes avec 5, 6 jerrycans qui remplissent devant.
C'est interdit désormais dans le Nord, hein, dans toute la région des Hauts-de-France.
Oui, mais pas sur le trajet de
Marseille. Mais visiblement pas sur votre trajet en route vers Marseille. Romaric, j'ai une question. J'imagine que vous vous posez la question régulièrement, mais c'est vrai que vous avez quand même un long trajet. Vous n'avez pas pu trouver soit une habitation plus près du boulot, soit un boulot plus près de l'habitation. Ça vous convient pour l'instant comme ça?
Alors, ça me convient. D'une part parce que j'ai quand même le fait d'être éloigné d'être dans les Alpes-de-France me permet d'avoir un confort de vie que j'aurais pas sur les Bouches-du-Rhône. Ça sacrifie un peu de temps de trajet, un peu de transport. Maintenant c'est vrai qu'avec l'augmentation du carburant ça devient très compliqué quand même de pouvoir assurer ce rythme là même si
ça tient encore. Vous avez fait le calcul encore, j'imagine.
Ouais, ça tient encore. Si je voulais avoir la même habitation dans les Bouches-du-Rhône, ça me compenserait pas mon coût de carburant.
Et est-ce qu'il faut, au-delà donc de votre situation où vous vous êtes rendu compte en effet, quand vous dites oui, ben le problème c'est ce qui entraîne les pénuries, c'est tous les jerrycans dans le coffre, ça vous vous dites il faudrait les interdire partout et pas seulement dans la région Hauts-de-France.
Oui, il faudrait les interdire partout. Pour moi, c'est pas logique qu'on vienne dans une station essence pour faire le plein de jerrycans pour son véhicule. Un jerrycan parce qu'on est en panne d'essence, on vient se dépanner, d'accord, mais faire des pleins en continu avec des jerrycans, c'est pas possible. Ça pénalise tout le monde.
Et c'est évidemment la question aussi qu'on se pose ce matin. Vous êtes nombreux à témoigner donc de cette difficulté et on le voit bien dans toutes les régions désormais. Merci Romaric. Bon courage pour la fin du trajet. On a bien compris que vous n'étiez pas encore arrivé donc à Marseille, qui est l'étape ultime puisque c'est là-bas que vous êtes enseignant au lycée en physique chimie. Je vous ai pas lancé là-dessus, mais je sais qu'il manque beaucoup de profs de physique chimie en France. On aurait pu en débattre également avec cette question. Faut-il rationner? Faut-il aller jusqu'à demander à faire un seul plein par semaine, à ne plus prendre de jerrycan. Continuez à témoigner depuis tous les coins de France ce matin au 32-16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, il y aura votre portrait du jour, Nicolas.
Et c'est Michel Houellebecq, parce que l'écrivain français est le favori des bookmakers pour le Nobel de littérature qui sera attribué aujourd'hui.
Et vos histoires, Charles?
On va parler pizza et bac de fiançailles, je vous en dis pas plus.
Bon, c'est sympa. Allez, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
9 minutes avant qu'il ne soit 7h et je vous donne le programme de la suite de la matinale. À 7h40, ne manquez pas le regard d'Amin Elbaï sur les dérives islamistes de plus en plus nombreuses à l'école. Il avait dénoncé le communautarisme à Roubaix. Il est aujourd'hui sous protection policière. Il publie un livre et c'est assez passionnant. Rendez-vous à 7h40. 8h10, le parti pris, c'est le sénateur de Moselle. Pour lui, les aides comme le chèque énergie doivent être versées en priorité aux régions françaises les plus froides. Et oui, parce qu'on a davantage besoin de se chauffer. Alors venez donc l'interpeller, Jean-Marc Todeschini. Il sera en direct sur RMC à 8h10. Et puis 8h30, que fait l'Europe pour limiter la hausse des prix de l'énergie? C'est un peu chacun pour soi en ce moment. Et c'est ce que dénonce Thierry Breton, le commissaire européen. Il sera avec moi à 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, c'est l'un des favoris pour le prix Nobel de littérature qui sera attribué aujourd'hui à 13h.
Oui, et Michel Houellebecq est le favori même des bookmakers et des sites de paris en ligne. C'est lui qui a la meilleure cote devant la poétesse américaine Anne Carson, le britannique Salman Rushdie qui a été victime d'un attentat en août. En quatrième position, on trouve la française Annie Arnaud. On parle aussi d'une écrivaine russe opposante de Vladimir Poutine qui s'appelle Ludmila Ulitskaya. Sauf que le prix Nobel de littérature n'est quasiment jamais attribué aux favoris.
Vous nous dites tout de suite que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Michel Houellebecq qui soit favori comme ça.
Je vous rappelle surtout que l'an dernier, personne n'avait vu venir l'écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnan. Je sais pas si vous en souvenez.
Non, j'avoue.
Charles l'avait prédit, mais j'étais bien le seul.
Et en 2016, qui avait prédit le choix de Bob Dylan, qui avait été une surprise absolue. Donc tout ça pour dire qu'on peut presque parier que le prix ne sera
attribué à aucun des écrivains que je viens de vous citer.
Et si, malgré tout, Michel Houellebecq devait être couronné?
Eh bien, ça ne manquerait pas de provoquer un scandale. Et ça tombe bien parce que les scandales, les controverses, les polémiques, c'est ce qu'il aime par-dessus tout. Fils de deux parents communistes et divorcés, ingénieur agronome de formation, fonctionnaire au ministère de l'Agriculture, puis à l'Assemblée nationale, il a connu le succès littéraire assez tard, à 38 ans, avec Extension du domaine de la lutte. Puis il est devenu un des écrivains français les plus connus, peut-être le plus reconnu, avec Les particules alimentaires, avec Plateforme. Il a reçu le prix Goncourt pour La carte et le territoire. Il déclenche une nouvelle polémique avec Soumission. Ses livres racontent souvent la misère sexuelle et affective des cadres d'aujourd'hui, avec toujours un fond de misogynie et une détestation de la religion musulmane. Parmi ses formules célèbres, il y a « La religion la plus conne, c'est quand même l'islam » ou bien « J'ai toujours considéré les féministes comme d'aimables connes ». Pas sûr que tout cela plaise aux jurés suédois qui sont censés récompenser un écrivain qui, je cite, « a fait preuve » d'un puissant idéal. Réponse donc tout à l'heure à 13h.
D'une puissance littérature, oui, d'un puissant idéal, je ne sais pas. Réponse à 13h donc, mais si on en croit les bookmakers, ce sera pas lui. Les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
Avec deux sondages comme vous les aimez, Charles. D'abord, et si on faisait une pizza à Noël?
Bah oui, question surprenante.
C'est vrai, c'est sympa.
Question surprenante à laquelle, bah oui, 22% des Français répondent oui. Plus d'un Français sur cinq serait tenté par une bonne pizza en
mais une
guise
pizza télé,
de
quoi,
repas
le soir
de Noël.
Ou pas. Ça, c'est
ah, ça,
sympa.
J'ai pas
c'est
le détail.
C'est un Noël un peu spécial.
Un peu décalé. Sondage mené par Opinionway pour le compte, évidemment, d'une marque de pizza. Alors, chez les jeunes, on monte même à 30% de réponses favorables. Mais alors, quelle pizza choisir pour un repas de Noël réussi? Bah, sur le podium, on trouve deux classiques italiennes. La 4 fromages arrive en tête, la Regina est troisième. Entre les deux, la version plus franchouillarde avec la pizza savoyarde. Petite déception évidemment du côté de la Margarita qui est éjectée du podium. Enfin, ce sondage ne permet pas de trancher l'épineuse question de la pizza ananas. 60% des Français trouvent absurde de mettre de l'ananas sur une pizza. Bah, 40% approuvent l'idée de l'ananas.
Alors, en régie, on me dit dans l'oreillette, la pizza ananas, c'est non.
Ah bah c'est non, la régie vote non. Bon en revanche,
c'est non
autour de la table. Et bah d'ailleurs, seuls 7% des Français opteraient pour une pizza ananas à Noël.
Moi j'aime la pizza 4 fromages. Autre sondage très pertinent, Charles. Une femme sur 5 avale sa bague de fiançailles lorsqu'elle est placée dans une coupe de champagne.
Ah, évidemment, tu vois que Manu
idée absurde.
Il connaît la technique, Manu. On réserve dans un restaurant chic, on est de mèche avec le restaurateur qui a glissé la bague au fond de la coupe de champagne. Et là, c'est le drame. Une femme sur cinq avalerait la bague dans ces cas-là. Bon, le sondage n'est pas très scientifique.
Non, c'est ce que j'allais vous dire, parce que comment est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont interrogé 8000 restaurateurs, c'est ce qu'ils nous disent.
D'accord.
Pour cette étude qui donc montre que cette technique de la bague dans la coupe de champagne serait très risquée. Mon conseil ce matin, c'est donc de cacher la bague de fiançailles dans la part de pizza du repas de Noël pour une soirée évidemment réussie.
Mais en fait, vous faites une pizza à galette des rois, vous.
C'est ça qui est pas mal, vous faites une deux en un avec la bague de fiançailles dedans.
C'est pas mal. Allez, il est 6h56, vous restez avec nous dans un instant. La météo, le journal et à la une du journal de 7h, ne manquez pas tous les détails du plan de sobriété du gouvernement.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.